Le lundi soir sur Fusion. Installé dans le grand canapé noir du studio Georges Debs, Ignace en toute intimité vous fait découvrir son invité pour un moment privé en tête-à-tête, tous les lundis soirs de 21h à 23h. Salon privé, une émission de la nuit sur Fusion.
Bonsoir, vous êtes sur Fusion, il est 21h, c'est salon privé jusqu'à 23h. Nous sommes en direct du studio Georges Debs. J'ai le plaisir d'être ce soir en compagnie de Mario Canonge, pianiste martiniquais de renom, mais dont la parole est relativement rare. La sortie de nouveau CD de Mario Canonge crée toujours l'événement et nous n'avons pas voulu ne pas en être. Mario va de festival en festival. Il a déjà fait les scènes les plus prestigieuses, joué avec les plus grands. Il flirte avec le jazz sans jamais mettre de côté les musiques de son pays. Nous allons lui demander comment lui se définit. Mario aime avant tout la musique et depuis plusieurs décennies, il la sert inlassablement et son talent aujourd'hui unanimement reconnu ici et bien au-delà fait notre fierté. Bonsoir Mario.
Bonsoir mon cher et merci de me recevoir.
Bienvenue dans Salon Privé. J'ai d'abord envie de te demander jusqu'à combien de jours tu peux résister aux besoins et à l'envie de te mettre au piano.
Je vais répondre différemment. Je n'aime pas beaucoup les vacances. Je dis ça parce que c'est vrai que en général, lorsqu'on est en vacances, on ne travaille plus. Et pour moi, on a tous besoin de repos, mais pour moi, m'arrêter de jouer 2-3 jours, ça me suffit.
Tu associes le piano au travail. Il n'y a pas piano plaisir, ça n'existe pas pour toi.
Bien sûr, mais le plaisir ne signifie pas qu'il... Enfin, pour pouvoir donner du plaisir, il faut travailler avant. Et lorsque je suis sur scène, évidemment, je suis dans un moment où j'essaye de donner du plaisir, je me donne du plaisir à moi-même, mais en même temps, lorsque je joue, je travaille, hein, je prends des risques, je cherche à ouvrir des portes différentes, donc je prends des risques et j'essaye, lorsque j'en trouve, j'essaie de retenir certaines choses que je pourrais utiliser par la suite, ou alors en tout cas développer. Parce qu'en fait, dans mon jeu, j'essaye d'éviter au maximum les clichés. Il faut que ça soit quelque chose d'innovant sans arrêt.
Un renouvellement permanent.
Oui, c'est ça. En fait, le jazz, c'est ça. Le jazz, c'est la capacité de créer dans l'instant, quel que soit le rythme derrière, que ce soit une musique américaine, ce qu'on appelle le jazz américain, ou alors ça peut être caribéen ou autre chose, mais c'est la capacité de pouvoir créer dans l'instant.
Mario, dans cette émission, il y a une voix féminine qui aura 3 questions à te poser. Je vais te demander de nous dire 3 chiffres entre 1 et 5. Ces chiffres-là vont désigner les questions qui te seront posées par cette voix féminine.
Eh bien, je veux dire 1, 3, 5.
Merci. Ça a commencé à quel âge ton histoire avec le piano? On t'a pris, on t'a mis devant, t'as mis assis devant, ou c'était un désir du petit garçon?
En réalité, en fait, lorsque mes parents se sont séparés, j'ai habité chez ma grand-mère, avec ma mère et d'autres membres de la famille. On était 9 dans la maison. Et il y avait chez ma grand-mère, donc il y avait un piano. Il y avait un très vieux piano. Il n'y avait plus qu'une octave et demie qui marchait. Mais c'était quand même un piano, il y avait quelques touches, quoi. Et donc, très naturellement, j'ai aimé tapoter sur ce piano, mais il faut que j'explique que dans ma famille, tout le monde joue plus ou moins du piano. Que ce soit les sœurs et frères de ma mère, il y avait notamment quelqu'un qui me poussait à jouer, qui est un monsieur que tu as connu, toi, qu'on appelait... dans Fort-de-France, qu'on appelait Calin,
Tout à fait.
Raymond Bertrand, qui était entre autres un osseur, et il m'a toujours encouragé à jouer du piano ou à danser. Je me rappelle qu'il me payait pour que j'imite James Brown, enfin c'était un truc, voilà. Et donc j'ai tapoté très jeune sur le piano, mais sans jamais, enfin sans que ce soit très sérieux. D'ailleurs, ça ne pouvait pas l'être parce que le piano n'était pas suffisamment, il avait une dépendance assez bon état, quoi. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un peu plus tard, j'ai un copain, un voisin, qui me dit un jour, il y a un prêtre qui est arrivé au presbytère de Sainte-Thérèse, et qui donne des cours gratuitement. Est-ce que ça t'intéresse? Alors, je suis allé voir, et effectivement, c'est là que j'ai connu le père Élie, qui était aussi le directeur de la chorale
du François.
Et donc, le père Élie, en fait, en réalité, ce qui l'intéressait, c'était de former une ou deux personnes pour jouer à la messe le dimanche, quoi. C'est ça qui l'intéressait, et ce que je comprends. Mais il y avait dans une des salles de la bibliothèque, enfin du presbytère, il y avait un piano qui lui appartenait, qui était un très bon piano, un Gaveau, je me rappelle. Et donc, ce piano-là, il a mis à la disposition des 3-4 personnes qui venaient travailler au presbytère. Donc, en fait, pour la première fois, j'avais accès à un vrai piano. J'ai travaillé le piano, on peut dire pratiquement tout seul. J'ai eu droit à un cours par semaine du père Élie pendant 4 mois. Mais très rapidement, je crois qu'il s'est aperçu que je prenais ça au sérieux. Et donc, il m'a conseillé de voir... il m'a orienté chez un prof de piano qui était Madame Aubéric, Gisèle Aubéric, qui habitait d'abord à Chelcher et ensuite à Casse-Pilote, qui était également professeur d'un certain Eugène Mona. j'ai connu Eugène à cette époque-là. Eugène était intéressé par... Eugène avait envie avec tout le bagage qu'il avait, très, très roots, tout ce truc qu'il avait à donner, il avait envie de s'initier à d'autres choses. Et donc, il voulait connaître la musique classique. Moi, ce qui m'intéressait dans la musique, c'était pas la musique classique, c'était le jazz. Mais Madame Aubéric me faisait comprendre que il était important que je côtoie un petit peu, enfin que j'aborde certains compositeurs. Et c'est ainsi qu'elle m'a fait découvrir Jean-Sébastien Bach, Frédéric Chopin, bien sûr, Liszt, Ravel, Debussy.
Ça t'a été profitable?
Oui, parce qu'en fait, les cours étaient assez chers pour l'époque, pour ma mère qui payait ces cours-là. Et donc, je prenais un cours tous les 15 jours. Tous les 15 jours, des fois toutes les 3 semaines. Mais enfin, j'avais quand même un accès quand même à certaines choses. Et donc, c'est pour ça que je dis que je suis en même temps dans la musique de l'école de la rue, et en même temps, j'ai eu accès à certaines petites choses, à un suivi. Un peu les deux, quoi. Et je pense à Eugène Mona qui lui, on se croisait souvent. Lui, il était intéressé par Jean-Sébastien Bach. C'est pour ça qu'il a composé son morceau. Et puis tous les jours, ça vient de là. C'est parce qu'il a travaillé Bach avec Madame Gisèle Aubéric. Et donc, mais c'était une époque, je parle de ça, c'était en 1976, quoi. Et donc, une époque où on était... C'était l'époque également de Falfrette. Falfrette que j'ai connu... j'ai connu les musiciens de Falfrette dès le début, parce que, en fait, vers l'âge de 14 ans, on a déménagé de chez ma grand-mère. Je suis allé habiter à la cité aux Andames, Batelière. Et un jour, je passe du coq à l'âne comme ça. Un jour, je suis sur mon balcon... au 3e étage, il y a un immeuble en face de moi, et je vois un monsieur qui passe avec une basse, Et je reconnais Alex. Alex Bernard, que je ne connaissais pas personnellement, mais je le connaissais déjà. J'avais 16 ans, je le connaissais de réputation. Je savais qu'il jouait dans l'orchestre Les Playboys. Et ni une ni deux. M'a dit, c'est un escalier. À un moment donné, m'a frappé. M'a dit, tout, bonjour, monsieur. J'habite en face. Je commence à jouer du piano. En fait, parce que j'ai commencé, je ne l'ai pas dit, mais j'ai commencé réellement, en fait, avec le Périlli, à travailler le piano vers l'âge de 14 ans et demi, d'accord, 15 ans. Et donc, à l'âge de 16 ans, je savais déjà que c'était quelque chose d'important pour moi, quoi. Et que la musique, c'était important. Et parce que j'ai toujours travaillé, même que je travaillais, j'apprenais mes cours, mes leçons du lycée en posant sur le pupitre mes leçons, des pupitres du piano. J'apprenais les leçons et en même temps je faisais des gammes. D'accord. Quoi. Et donc je vais voir Alex Bernard et je lui dis bonjour monsieur, etc. Enfin, quand j'avais 16 ans, Alex Bernard était évidemment jeune, mais il avait...
Il était plus grand que toi.
Plus grand que moi, quoi. C'était déjà un homme, il était marié, il avait déjà... voilà. Et donc... je lui dis, il me dit, bon, je joue dans un groupe, ça s'appelle Falfret. Je ne connaissais pas Falfret. Personne ne connaissait encore, c'était les débuts, c'était en 76. Il me dit, on répète à l'Ermitage avec mes frères qui sont musiciens, si tu veux, tu viens. Alors je vais là-bas, à l'Ermitage, et je découvre Bib Monville, Jackie Bernard, Nicole Bernard, Jackie Alpha, en fait, toute l'équipe, quoi. Et j'entends cette musique où je ne comprends rien, mais je sens que ça me parle, quoi. Je ne comprends pas une harmonie, ça me dépasse, quoi. Mais je sens ça, je sens que c'est un truc que j'aime. Et c'est Alex Bernard qui m'a fait connaître, qui m'a fait rencontrer et Marius Cultier, qui m'a fait rencontrer Paul Rosine. Donc, très, très jeune, j'ai eu la chance de rencontrer les meilleurs musiciens. Parmi les meilleurs musiciens de la Martinique.
Est-ce qu'il t'est arrivé, comme à beaucoup d'autres, de monter ou d'être intégré dans un groupe, les petits groupes de l'époque ?
Eh bien, oui, mais je me souviens que assez jeune, il y avait un gars qui voulait monter un orchestre et il voulait que je sois au piano. Mais la musique qu'il jouait à l'époque, c'était la musique, une musique populaire de la Martinique, et ça ne m'intéressait pas à cette époque-là. Je lui ai dit non, il m'a dit comment non ? Je lui ai dit, il m'a cabé mon instrument, il m'a cabé. Il m'a dit non, c'est pas ça, moi, le fait. Et donc, je n'étais pas attiré par ça. J'étais attiré naturellement par des groupes comme Malavoie, par un son, par Marius Cultier, par ces choses-là, par Alain Jean-Marie, que je connaissais déjà à cette époque-là. Mais, très jeune, on a monté un groupe, j'ai eu la chance vers l'âge de 17 ans de faire partie d'un groupe qui s'appelait le groupe Quartz, avec Léo Usol à la guitare.
À la guitare.
Avec Alain Antoinette.
À la basse.
À la basse. Avec Romain Palude.
À la batterie.
À la batterie. Et moi-même au piano. C'est le premier groupe qui était un groupe. C'était un groupe de jazz, hein, parce que Léo Usol, c'est un fan du guitariste Wes Montgomery. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu ça. J'ai commencé avec ça, voilà.
Tu as joué avec Léo.
Eh oui. Eh oui.
Mario, on va écouter un premier extrait de ton album. Je t'en laisse le choix.
Écoute, pour moi, encore une fois...
Et puis on va parler plus longuement de l'album tout à l'heure.
Hein. Je veux dire, quand je fais un disque, pour moi, il n'y a pas de... Donc on peut mettre le premier, pas de problème.
Ok, on l'écoute. Thank you. Donc te voilà, tu ne te considères pas déjà à l'époque comme pianiste?
Non, pour moi, enfin, d'abord je regardais, j'avais des copains qui jouaient du piano, qui jouaient vraiment mieux que moi, des copains de mon âge.
Dis-moi, comment tu expliques cette espèce de tradition pianistique en Martinique?
Alors,
vous êtes nombreux. Hein?
Oui, on est nombreux. Alex dit que c'est parce que Marius a vendu des pianos en Martinique, a vendu beaucoup de pianos en Martinique.
Ça se dit.
Mais je crois qu'avant ça, avant qu'il commence à vendre des pianos en Martinique, il y avait déjà une tradition. Moi, chez ma grand-mère, par exemple, enfin ma mère, qui est encore là, ma mère me disait qu'il y avait chez eux des bals où les musiciens venaient. Alors elle me cite des noms de musiciens. Il y avait Nel Lancry qui venait, il y avait Sommier qui venait. Celui qui est en France là aussi, qui est... j'ai un petit trou, ça va venir. Michel Sardabi, voilà, Michel Sardabi. Enfin, il y avait des musiciens, il y a toujours eu des pianistes en fait en Martinique. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que... ici, nous n'avons pas des comparaisons, nous on est bah, qui, tu vois.
Nous qui a quitté Tambour à Basse Guadeloupe.
En fait, attends, parce que ceci dit, il y a des musiciens, il y a de très bons pianistes aussi en Guadeloupe. Attention, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pianistes.
Et c'est pas près de s'éteindre parce qu'il y a une flopée de jeunes.
Oui, il y a des jeunes qui sont en train, qui sont là déjà. Et qui sont... Ah oui, là, il y a une relève qui est assurée, et des gens qui iront, j'espère, plus loin que nous-mêmes, qui font des choses extraordinaires. Ah oui, il y a vraiment... Mais de toute façon, on a non seulement une tradition de pianistes, mais on a l'âme chez nous, l'âme du musicien. Même quand les gens ne jouent pas d'instrument, on n'a qu'à regarder dans les conversations, on parle football, femme, sport, loto, musique. C'est vraiment dans notre culture, quoi. La musique a une place très importante, vraiment très importante. Et tous les copains, même quand ils ne sont pas musiciens, ou pas, c'est rare de trouver un musicien antillais qui ne sait pas comment on fait un tibois, comment on fait un chacha, comment on fait... Tu vois,
tu m'as dit tout à l'heure que lorsque tu as été approché pour être intégré dans un groupe de musique populaire, tu as répondu que ça ne t'intéressait pas.
Oui, et même, je vais te dire, un peu plus tard, je me souviens, c'est Dédé lui-même qui me l'a rappelé, Dédé Saint-Prix.
Il est venu te chercher.
Il est venu me chercher pour le groupe Pac-Attack. Et je lui avais dit non. J'avais dit non. Mais en fait, en réalité, je sais pourquoi. C'est parce que je voulais aller dans une direction où j'entendais des harmonies. Et j'entendais dans Falfret, dans Malavoie, dans Marius Cultier, j'entendais non seulement la rythmique, qui pouvait être une rythmique populaire, mais j'entendais des harmonies. Et donc, comme naturellement, on ne m'a pas appris à aimer le jazz. J'ai aimé ça naturellement. Et lorsque je roulais en mobylette, en petite mobylette, quand j'ai une mobylette dès l'âge de 14 ans, très tôt, j'avais installé un petit magnéto sur ma mobylette et j'écoutais Herbie Hancock, Miles Davis, j'écoutais des choses comme ça. Naturellement, quand c'était pas... J'ai pas appris à aimer ça. J'ai aimé ça naturellement.
Aujourd'hui, tu te classes jazzman ou... dis-moi, tu es où là?
En réalité, je vais dire que je suis un jazzman, mais qu'est-ce que c'est qu'un jazzman? Un jazzman, parce que quand on dit jazzman, on pense États-Unis, on pense à une musique particulière. Mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, le jazz, c'est, une fois de plus, c'est le fait d'improviser, de créer dans l'instant. C'est ça le jazz pour moi.
Quel que soit le rythme.
quel que soit le rythme. Ça peut être une musique arabe, une musique latine, une musique indienne, ça peut être une musique de chez nous, quel que soit le rythme. C'est la faculté, la possibilité de créer dans l'instant. Mais de créer quelque chose qui soit... Il faut un vocabulaire pour ça, pour pouvoir créer. On peut créer avec très peu un vocabulaire restreint. Hein. Mais plus on a de vocabulaire, et plus on peut aller loin, quoi. Mais y a des gens qui peuvent avoir très bon goût avec un vocabulaire très restreint. C'est quelle note choisir, où aller. On peut très bien avec 4 notes faire des choses extraordinaires. On peut très bien avec 100 notes faire des choses extraordinaires. Mais on peut très bien aussi avec 100 notes faire du bavardage ou avec 4 notes dire des choses qui n'ont pas d'intérêt.
Nos musiques s'adaptent bien à ces...
Bien sûr, c'est ce que j'ai toujours fait en fait. Hein. C'est ce que j'ai toujours fait, même quand j'ai fait mes premiers disques à mon nom, je parle. Hein. Parce qu'avant les disques à mon nom, j'ai eu des expériences très importantes, par exemple au sein du groupe Ultramarine. Mais lorsque j'ai commencé à enregistrer à mon nom, j'ai voulu d'abord le premier disque qui s'appelle « Retour aux sources ». Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Pour moi, et il fallait que je montre bien mes origines, d'où je viens. Et qu'est-ce que je propose? J'ai fait un disque où il y avait des begins, des mazurkas, avec des choses harmoniques. Mais en même temps, il fallait que les mélodies soient caribéennes. C'est pour ça que je travaillais beaucoup avec Ralph Tamar, qui est pour moi le chanteur.
J'allais te poser la question quant à cette fidélité.
Oui, ça date de 1985. En fait, en réalité, je fais une petite digression. Je me souviens, à la mort de Marius Cloutier, en 1985, j'ai rencontré, et Ralph et moi, on s'est rencontrés lorsque le corps de Marius était exposé.
Au Conseil Général.
Ralph est venu me voir, il dit, mais bon, Atiamo, c'est où hein? C'est où, on va prendre la suite. C'est où? et en fait, depuis cette époque-là, on a commencé à travailler ensemble jusqu'à présent. Hein.
Il ne s'est pas trompé.
Je ne sais pas s'il s'est trompé. Enfin, en tout cas, en travaillant avec lui, je ne me suis pas trompé non plus. Parce que Ralph, c'est un musicien qui a non seulement... Qui a le son caribéen. Il a un son, il a un truc. On entend Ralph Tamar, on dit aïe, ça c'est la Martinique, quoi. Ça c'est la profondeur même de la Martinique. Et en même temps, parce qu'il a eu des influences qui viennent du Brésil, qui viennent de Porto Rico, avec certains chanteurs latins qu'il adore, etc. Il a une ouverture. Il chante comme jouerait un saxophoniste.
Composer pour lui, c'est un plaisir.
Ah oui, oui, mais je composerai facilement pour Ralph. Je sais que lorsque je compose un morceau, je dis ça c'est pour Ralph. Ou j'ai composé des choses, je me suis dit ça c'était pour Jocelyne. Parce que lorsque je compose, je suis dans... lorsque je compose, je chante ce que je compose. Et je me mets à la place de celui qui va interpréter ça, comme dans une pièce de théâtre, comme dans un film. Je vois les images, je sais, ça c'est pour Ralph, ça c'est pour Jocelyne, ça c'est pour Tony, ça c'est pour... Voilà, et ça c'est pour Serge Pansard.
J'allais t'en parler, justement.
Je ne me suis pas trompé non plus.
J'allais t'en parler. Raconte-moi cette rencontre avec Serge.
Alors, en fait, avec Serge, on jouait ensemble dans le groupe Sakio. Le groupe Sakio est un groupe que nous avions monté avec Michel Alibaud en 1987. Et donc, on a enregistré un disque qui a marché, qui était un disque. On voulait faire un disque de zouk urbain, c'est-à-dire un mélange de rock, de zouk. On voulait essayer de faire un truc qui marche sans imiter Kassav. Et c'était difficile, hein? d'essayer de faire, de se démarquer, de faire des choses qui vont plaire et en même temps de ne pas faire ce que nos aînés, ce qui marche, d'éviter de copier. Il y a eu des morceaux qui ont été des tubes. J'ai eu la chance d'écrire Bisous sucrés. Ça a bien fonctionné. Il y a eu d'autres morceaux qui ont marché dans ce disque. Et je peux dire que Sakyo était une expérience nouvelle qui peut-être a...
C'était une espèce d'école pour vous aussi.
Ah oui, c'était une école, hein, oui. Je pense que même que ça a aidé aussi à l'émergence d'autres groupes qui... des groupes comme, je le dis sans prétention, hein, mais je pense à des groupes comme Taxi Créole qui ont peut-être senti quelque chose là, qui ont emprunté un truc un peu différent aussi de Kassav. Ils ont fait des choses... mais c'est comme une espèce, un mix entre les groupes comme Kassav ou Sakyo qui étaient... Voilà, avec des synthés, des effets, des trucs, mais toujours une mélodie. Il fallait toujours qu'il y ait une mélodie qui accroche. Pour moi, la composition passe d'abord par la mélodie. Il faut que une bonne chanson, c'est une chanson qu'on peut chanter sans qu'il y ait d'instrument, qu'on sifflote comme ça en faisant la vaisselle, en coupant les herbes, enfin. Voilà, c'est ça, une bonne chanson. Maintenant, les arrangements, le concept, ça c'est encore autre chose. Mais il faut qu'il y ait une belle mélodie. La mélodie, c'est essentiel.
Raconte-nous Serge.
Alors Serge, au sein de Sakyo, on s'est connus. Et puis, un jour, Serge me fait entendre un morceau qu'il a chanté. Un morceau qui a été composé par un guitariste d'origine égyptienne qui s'appelle Khalil Shaheen, avec un texte de Françoise Hardy. Et il a chanté cette chanson, comment elle s'appelle déjà ? C'est ça la mélodie. Bon, ça va, le nom va avoir... une chanson que j'ai entendue, une chanson magnifique. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça ? Et je me suis juré de faire son frère ou son cousin. Et à la suite de ça, j'ai composé Pays-moi jeudi. J'ai appelé Serge, je lui ai dit, Serge, tu m'as fait goûter un morceau, j'ai un morceau pour toi.
Pays-moi jeudi, on fait pas ça deux fois dans une vie.
Je sais pas.
Non, mais ça te colle, en plus, ça te colle à la peau.
Oui, ça c'est sûr. Hein, c'est devenu, mais rien d'autre. Il y a Laissez pas aller qui est devenu. Mais Pays-moi jeudi, c'est vrai, c'est spécial. Ah, ouais. C'est un truc qui a marqué. Et en plus, je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Je savais que c'était une belle chanson. Quoi. Et j'avais une belle chanson. J'ai dit, écoute, j'ai une belle chanson pour toi. Viens, j'enregistre mon disque. Il a écouté ça. Il m'a dit, ah oui, ça c'est pour moi. Et il a chanté ça au studio. Waouh, on avait les frissons. C'était en 1991. Et voilà. Et il y a eu, sur ce même disque, il y a eu Laissez pas aller, qui avait chanté Ralph. Donc il y a eu deux titres, c'était le premier et le deuxième morceau du disque, deux titres qui sont restés dans le patrimoine martiniquais.
On va écouter le deuxième de cet album-là que tu sors.
D'accord, avec plaisir. Thank you.
Vous êtes dans le salon privé, nous sommes sur Radio Fusion, comme tous les lundis soirs, 20h. Oh, 21h, 23h. Ce soir, c'est Mario Canonge qui nous tient compagnie. Mario, ta première scène.
Ma première scène, c'était avec... je suis en train de réfléchir, je ne sais plus si c'était avec le groupe Quartz, en question, là, avec Elio Uzol.
Je précise, ta première scène, perso.
Alors, perso.
Tu t'en souviens pas?
Je ne sais pas, parce que, en fait, tu sais, quand je suis arrivé en France en 79, je me suis inscrit à la fac en musicologie. J'ai rencontré là-bas des musiciens. Et très rapidement, j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à fréquenter ces musiciens et à jouer dans des petits bars. Et on jouait, à cette époque-là, on n'était même pas payé par rien, on mettait le chapeau. Et si les gens voulaient mettre de l'argent dedans, voilà, on jouait comme ça. Où on était payé 50 francs, dans certains concerts marchaient, même des fois moins. Hein. Et bon, voilà, c'était comme ça. Et mais j'ai eu la chance, en fait, j'ai eu dans ma vie vraiment la chance de jouer énormément de musiques différentes en même temps. Il y a une époque où je faisais partie de plus de 30 groupes en même temps. Il y avait des groupes africains, des groupes brésiliens. Avec, je me rappelle la chanteuse qui est décédée il n'y a pas si longtemps, qui a été assassinée au Brésil, Lo Alva. Mm. J'ai joué avec elle à l'époque. Je faisais partie de groupes qui n'étaient même pas basés en France, qui étaient basés à Amsterdam. On me faisait venir, enfin j'ai fait... C'est des trucs dont je ne parlais pas tellement ici, parce que c'était des trucs tellement différents. Quant au groupe latin, alors là j'en ai fait des... J'ai joué des années à la Chapelle des Lombards, où à cette époque-là on jouait 5 fois par semaine. Enfin, j'ai joué 3 mois d'affilée dans des... J'ai rencontré plein de musiciens avec qui on a fait le bœuf chocolaté, je sais pas qui, enfin plein de gens qui...
C'est enrichissant tout ça.
Ah oui, j'ai eu beaucoup de chance, hein. J'ai joué avec plein de gens, plein d'expériences musicales. Tu vois, par exemple, dans la salsa, j'ai pas appris à jouer la salsa. J'ai joué ça parce que je jouais dans des groupes, je peux dire, un peu... dans cette musique latine, un peu grâce à Bibi Louison, qui est pianiste martiniquais, qui joue ça, qui connaît bien cette musique-là et qui me demandait de le remplacer de temps en temps. Et donc j'ai fait mon trou comme ça au fur et à mesure, en rencontrant des musiciens, en jouant à l'Escale, ce club qui était à Rue Monsieur le Prince à Paris, avec des vieux de la vieille. J'ai tellement d'expériences différentes, vraiment beaucoup de choses. Et j'ai fait partie de groupes. Et puis j'ai fait, à cette époque-là, il y avait beaucoup de studios également. J'ai fait beaucoup de séances de studios. C'est là que j'ai rencontré Michel Alibaud. Et les expériences de studios d'enregistrement, c'était vraiment quelque chose d'enrichissant parce qu'il fallait trouver. Des gimmicks, des façons d'accompagner tout de suite, très vite, parce que voilà, des fois on faisait des disques, j'ai fait certains disques en 3 heures, c'était à la suite comme ça, on écoutait même pas quoi, c'était, et bon, c'est une époque qui n'existe plus.
C'est difficile pour un Martiniquais pianiste comme toi, de grand talent, d'intégrer des festivals.
Alors évidemment, parce que comme je joue depuis longtemps, j'ai joué dans beaucoup de festivals, mais j'estime que par rapport à ce qu'on fait dans la musique, nous, les musiciens antillais, on n'a pas une visibilité suffisante. On mériterait de jouer davantage dans les grands festivals français, européens.
La musique que vous faites n'est pas considérée comme jazz ?
Ça dépend des musiciens. Moi, j'ai eu une époque avec le disque que j'avais enregistré, le disque Rhizome, Dans ce disque Rhizome, il y avait de grands musiciens. Hein. Il y avait Roy Hargrove, qui était le trompettiste qui est décédé il y a 15 jours, trompettiste américain qui a enregistré deux titres dans ce disque. Il y avait un batteur extraordinaire qui s'appelle Antonio Sanchez, qui était le batteur de Pat Metheny. Oui, c'est ça. Et c'est un musicien qui est leader maintenant, qui écrit des musiques de films. Donc j'ai eu la chance d'enregistrer avec ces gens-là. Ils sont venus jouer dans mon disque. Donc j'ai fait des tournées avec. J'ai fait le tour du monde plusieurs fois. J'ai fait des tournées avec El Negro, Horacio Hernandez à la batterie. J'ai fait des choses, mais j'estime que en France, les gens me connaissent, hein, les programmateurs me connaissent, ils me connaissent tous. Mais je crois que je sais pas comment faire, mais il faut qu'on trouve le moyen d'avoir davantage de
visibilité. Mario, je ne t'ai jamais vu sur une grande chaîne de télévision française.
Ah non, ça c'est autre chose. Mais tu ne verras pas non plus de grand jazzman sur la télévision française. Hein. Non, alors là, ça c'est autre chose. Ça, je ne passerai jamais. Enfin, c'est déjà arrivé. Hein. Mais c'est arrivé parce que j'étais derrière Michel Jonas, par exemple. Mais ça, c'est des trucs de variété. Je ne suis pas du tout dans la musique de variété. Il y a beaucoup de musiciens antillais qui passent dans les télés, dans des émissions de variété, mais ils sont engagé en tant que musicien. Derrière,
c'est le cas de Jean-Philippe.
Jean-Philippe Fanfan, mais il y en a plein. Hein. Mmh. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de musiciens, Thierry Fanfan aussi, et puis d'autres, beaucoup d'autres, qui sont engagés par des chanteurs de variété. Mais moi, je n'ai jamais voulu entrer dans ce milieu. C'est pas mon truc. Et j'ai eu quelques expériences. Hein. À l'époque d'Ultramarine, je me souviens avoir fait une tournée avec petites tournées avec Nicole Loisy, par exemple. Ça n'est pas. J'ai eu quelques expériences comme ça avec des musiciens de variété, mais c'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine parce que dans ces musiques-là, il faut jouer d'une façon qui ne me convient pas. Il n'y a pas de liberté.
Est-ce qu'il y a un dosage quand tu interprètes une de tes compositions, alors que tu fais une reprise, est-ce qu'il y a un dosage pour rester martiniquais et puis apporter cette touche jazz? Est-ce qu'il n'y a pas un risque parfois d'être un peu trop jazzy et de perdre son identité?
Ça dépend de chacun. Moi, je me pose pas ces questions-là. Quand je joue, évidemment, si, alors, t'expliquer. Si je joue un morceau, si je joue un concert jazz avec des gens qui jouent jazz au sens américain du terme, c'est-à-dire ting 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 contrebasse, shabada, ce qu'on appelle shabada, dum dum dum.
Là,
dum,
tu fais 100% jazz.
Là, je joue jazz. À ce moment-là, je joue jazz. Je veux pas faire de mélange, ça peut être être hybride dans ces cas-là, c'est plutôt ça peut friser le mauvais goût. Il faut rester dans, mais il y a des musiques où le jeu de tous les musiciens est différent, on peut être jazz. C'est ainsi que pour moi dans Zouk Out, je suis jazz parce que les musiciens qui jouent avec moi, c'est Michel Alibo à la basse, Arnaud Dolmen à la batterie. C'est très ouvert. On va dans des directions. Et d'ailleurs, quand on joue, on se regarde, on sourit, on rigole. On dit, c'est pas possible, on va dans des trucs. En même temps, c'est comme si on était connecté. Et pour moi, c'est ça le jazz. Mais en même temps, dans quelque chose qui swing, qui peut swinger caribé, hein, si je décide de jouer caribé. Hein. Pour moi, pour moi, enfin, je veux dire, d'abord, la musique, c'est la musique. Si on pose la question, quand on posait la question à des gens comme Duke Ellington, Pour lui, il disait que le jazz, c'est un arbre avec des multiples branches, avec une multitude de branches. Donc, ça dépend de la branche. C'est pas, il n'y a pas un chemin. Il y en a plein. C'est comme ce disque que j'avais appelé rhizome. C'est, le rhizome, c'est, voilà, c'est, il peut y avoir une racine importante, mais qui donne d'autres racines qui vont dans tous les sens, qui vont dans les sens qu'on choisit d'emprunter. Donc, il n'y a pas de, il ne faut pas qu'il y ait de fermeture.
Raconte-nous un peu ce nouvel album qui est arrivé.
Oui, 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 qui est arrivé juste 2 semaines après être sorti en France. Il est sorti en France un petit peu avant, et là, il est là depuis 2 jours.
Une dizaine de titres.
Il y a 10 titres, voilà. Il y a 10 titres. C'est un album où il y a une majorité de morceaux, des morceaux instrumentaux, que j'ai travaillé vraiment. Ce qui était important pour moi, alors je l'ai appelé Zouk Out. Pourquoi ? Parce que les rythmes que j'utilise sont des rythmes du zouk que j'ai voulu travailler d'abord avec Arnaud Dolmen, parce que je joue beaucoup avec lui, un jeune musicien de la Guadeloupe, et Michel Alibo. On a travaillé ça. J'ai voulu, enfin, je leur ai expliqué que je voulais quelque chose. Je voulais. Donc, j'ai composé des morceaux qui étaient pour moi dans un esprit en pensant au rythme du zouk. Mais très ouvert. C'est très ouvert. C'est-à-dire que dans tous les morceaux que tu vas écouter, tu vas entendre, il y a des choses, tu vas dire, ah, mais là, c'est pas zouk. Et un petit moment après, tu entends quelque chose qui est zouk. C'est très ouvert, mais l'essence même caribéenne du zouk.
C'est très subtil comme démarche.
Là, c'est subtil, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui, ça dépend des morceaux. Parce que il y a des morceaux qui sont des morceaux chantés. Où là, le rythme zouk est plus est reconnaissable tout de suite. Ce sont des zouks. Là où ça change un petit peu, c'est dans les harmonies. J'essaie de faire des harmonies, un petit peu comme quand j'avais fait le morceau « C'est où qu'il en mou » qu'avait chanté Olivier Jean-Alphonse, avec des harmonies très ouvertes. Et en même temps, c'est un morceau qui a marché. Quoi, et donc, dans ce que j'ai voulu faire dans ce zouk art, c'est de montrer... Parce que ce qu'il faut dire, c'est que... Il faut bien se réaliser que les musiques caribéennes, je parle du reggae, la musique salsa, toutes ces musiques-là sont exploitées dans le monde entier. Partout, chez les Américains, chez les Européens, partout, on pique, on prend un petit peu, on prend des... Et en fait, souvent, maintenant je vais dire en France, quand on parle de zouk, on parle de choses comme si c'était des choses de comme si c'était une musique facile, etc. Musique facile, mais même le zouk populaire n'est pas facile. Quand c'est bien joué, facile, personne passe à jouer, Pucci pas à jouer. Oh, non, c'est pas parce que ou bien la musique haïtienne, le compas c'est une musique. Quand on est dans les frères des gens, c'est quelque chose. Ou Magnum Band, il y a une particularité, il y a un truc puissant, il y a un truc qui est c'est la terre, quoi. Il y a un truc qui est puissant là-dedans. Bon, maintenant, ils ont fait un truc populaire d'une époque. Moi, j'essaye de faire... Je suis avec mon époque, j'essaye toujours d'essayer d'apporter un truc. Chacun apporte sa pierre, quoi. J'apporte... Moi, j'ai voulu montrer que dans nos musiques populaires, on pouvait très bien utiliser ces rythmes et puis ouvrir les choses... Et faire qu'on se pose la question, qu'on se dise, mais tiens, on peut aller par là aussi.
Est-ce que la musique et la biguine et la mazurka ne sont pas les enfants pauvres de tout ça?
Ben, en fait, c'est la continuité. Moi, je dis que ça commence par le tambour. Ça commence par le tambour, ça commence par le belay. Le belay, il y a le tibou, tac, pitac, pitac, tac, pitac, brout, patac, brout. Voilà, c'est le belay. De ça découle la biguine. Parce que ça vient de là. Là, quand on veut bitch, 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 tout ça, ça vient du tambour. Donc, on parle, ça vient du tambour. Ensuite, parce qu'on dit que, par exemple, dans la musique haïtienne, quand on entend tchik, 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 mais ça, c'est quoi ça? Ça vient de chez nous, hein. La musique haïtienne, je sais pas si les gens savent ça, parce que la musique, c'est la cadence rampa qui est vraiment haïtienne. Mais le tibou, la cymbale vient de chez nous, hein. Donc, ils ont une façon, ils ont exploité ça d'une façon. Et puis, nous, on a exploité... avec le groupe avec Kassav où on a exploité une façon de jouer le zouk, en s'inspirant également du cheval bois, parce qu'avant, comment est-ce que le groupe Kassav jouait le zouk? Il y avait tchak, 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 tchaka, tchak, 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 tchaka. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le cheval bois de Dédé Saint-Prix, hein? Enfin, de Dédé Saint-Prix, que Dédé Saint-Prix a, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a popularisé. Ça vient, tout ça, ça vient de chez nous, les rythmes, tout ça, c'est un, il n'y a pas un truc, c'est, il y a un mélange de choses, celui-là prend là-dedans, il fait, et puis il en fait des choses. Bon, donc, moi, je dis que les musiques évoluent. Ça commence par le tambour, la biguine, biguine mazurka, parce que la mazurka, c'est quoi? C'est un tibois avec un, mais en trois temps. Au lieu de faire tac, 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 t'en fais tac, 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 tac. Voilà, c'est la même chose mais en trois temps. Donc le tambour, la biguine, la mazurka, le zouk. Maintenant chez la jeune génération, c'est bougé, et aussi dancehall, mais le tibois est toujours là. C'est les choses. Et puis moi, enfin moi, j'ai pas, je n'invente rien, c'est pas ça, mais je veux dire, moi j'essaye de trouver des choses, de montrer, puisque je suis influencé par énormément de musique et notamment par la musique jazz, mais toujours avec des mélodies, j'essaie de trouver, de montrer qu'on peut aller dans une direction, encore une autre direction. C'est ce que j'ai fait dans Zoukart.
Mario, tu vis à Paris. Quelle est aujourd'hui la place de nos musiques en France?
Alors, en fait, le regret, je dirais, c'est que... D'abord, nous n'avons pas de producteurs pour des disques, par exemple, de producteurs antillais. Il n'y en a pas. Il y a de moins en moins de productions. Les musiciens font des autoproductions souvent. Ensuite, il n'y a pas réellement de lieu tenu par des antillais pour promouvoir nos musiques. Il y avait à une époque...
Ça a été plus facile, hein, dans le passé.
Oui, il y avait assez récemment, il y a quelques années, je ne parle même pas de la rue Blomé de l'époque, mais je veux dire, il y a 15 ans, il y avait la péniche Bébé Antilles, par exemple, mais qui n'existe plus. En fait, le seul lieu où les Antillais se produisent, mais dans une musique qui est déjà une musique progressive, c'est un club qui s'appelle le Baiser Salé.
C'est tout petit.
C'est tout petit. Mais ça marche tous les jours. Ça marche tous les jours. 7 jours sur 7, 367 jours. Et avec des programmations différentes tout le temps. Et c'est pas mal. En fait, en réalité, les clubs de jazz sont tout petits. Hein. Les clubs de la rue des Lombards, la rue du jazz, c'est la rue des Lombards. Avec le Sunset Sunside, le Baiser Salé et le Duc des Lombards. Ce sont les clubs... Les plus connus. Et puis, par ailleurs, il y a le New Morning, qui est un lieu un peu plus grand, qui peut contenir entre 400 et 500 personnes. Puis voilà, il y en a deux ou trois, voilà. Mais c'est, voilà, c'est le Baiser Salé, c'est le lieu où se produisent le plus, je pense, les musiciens antillais. Alors, maintenant, il faut parler de quelle musique? La musique, en fait, il y a énormément de jeunes musiciens antillais qui sont en train d'émerger et qui font des musiques très différentes les uns des autres. Il y a des gens comme Arnaud Dolmen qui vient de la Guadeloupe, qui fait un travail particulier et remarquable. Des gens comme Sonny Troupé qui lui aussi est batteur. Des gens comme Grégory Priva, pianiste. Et il y en a d'autres, hein. Il y a un guitariste qui s'appelle Ralph Lavital qui fait des choses. Il y a des jeunes chanteuses qui sont d'origine antillaise mais qui ont grandi en France, des gens comme la famille Abraham, Cynthia Abraham, enfin voilà, ils sont plusieurs. Donc il y a pas mal, il y a des gens qui, je pense aussi au flûtiste guyanais, Johan Cléry. Qui fait des choses. Enfin donc, il y a un petit vivier de gens qui se battent et qui ont des idées, hein, il y a une génération de gens qui font des choses très intéressantes, mais qui se produisent pas suffisamment à leur nom. Ce sont des gens qui travaillent, mais ils travaillent derrière d'autres qui sont en général derrière des chanteurs de variété. Il est difficile de se produire en tant que leader. Il faut, pour ça, il faut être un guerrier. Il faut être un guerrier. Proposer des choses tout le temps. Il faut se renouveler. Parce que c'est pas parce qu'on a fait quelque chose qui marche à un moment que les gens que pour les gens c'est acquis, pour le public c'est acquis. Il faut sans arrêt se renouveler, trouver des idées. Et moi j'aime bien ce challenge. J'aime bien ça parce que en fait en réalité je ne regarde pas en arrière. Je regarde toujours. J'avais fait un disque, mon disque qui s'appelait Mi-temps, qui était sorti en 2011. Et je disais qu'à ce moment-là, j'arrivais au mi-temps de ma vie et que je me voyais à l'âge de 100 ans en train de jouer encore du piano. Ça voulait dire que je regarde devant et non pas derrière. Bon, là maintenant, j'ai mi-temps plus, mais c'est...
Tu n'as pas touché à d'autres instruments?
En tant que vraiment bon instrumentiste, non. Mais si je dois faire, si je dois jouer une biguine, une bossa nova, une mazurka, un petit jam, en tout cas la batterie, je peux. S'il faut faire un petit rythme de salsa sur une conga, je peux. Sauf que je ne vais pas le faire longtemps parce que ça fait mal. S'il faut faire un petit ballet, un petit machin, un petit rythme cool, sans prétention, je peux. J'ai à un moment touché un peu à la flûte comme mon frère.
Comme Dominique.
Ouais, pas très longtemps. Mais je suis pas. Non, j'ai travaillé. Je me suis vraiment consacré au piano.
Mario, voilà la première des trois questions que tu as tirées au sort tout à l'heure.
Avez-vous déjà pensé à transmettre vos connaissances à travers l'enseignement du piano?
Non, c'est pas que ça ne me tente pas. C'est j'ai fait des masterclass où des ateliers dans des écoles ou que ce soit en France ou dans d'autres pays aussi. Hein, lors de tournées, j'ai fait ça en Afrique du Sud, j'ai fait ça, je l'ai fait il y a pas longtemps en Colombie. Donc c'est quelque chose que je fais de temps en temps, mais ce sont plutôt des masterclass, des cours particuliers. J'en ai donné un petit peu, mais pas beaucoup. Mais je dois dire que c'est quelque chose qui m'épuise, parce que lorsque je donne il faudrait que j'apprenne. Hein, quand je donne un cours,
tu es mauvais pédagogue.
Peut-être que je suis mauvais pédagogue. Je me donne vraiment à fond, quoi. Et trop. Et je donne beaucoup. Je voudrais que les gens qui sortent de là partent avec...
Ça va pas pour si vite que ça, Mario.
Oui, et peut-être trop, oui. Et donc, je pense que je ne suis pas fait pour ça. Ce n'est pas mon truc. Il faudrait que... ce que je préfère... Je préfère discuter de la musique, expliquer aux musiciens expliquer plutôt les histoires de concept, de direction, comment aller dans une direction, savoir ce qui est, quand on joue, ce qui est utile, ce qui est inutile, ce sont des cours différents. Ce ne sont pas des cours de piano pour travailler la technique, c'est autre chose. Et ça m'intéresse davantage.
Des choses comme la sobriété, ça s'apprend.
Oui, bien sûr. Nous sommes à mais pour moi, ce qui est important dans la musique, c'est vraiment la conception. La conception. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on veut dire?
Ne pas essayer de trop en dire.
Voilà. Ça, c'est... Voilà. C'est... voilà. C'est... Le goût des choses. On dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. J'ai un petit problème avec ça. Ça se discute. Ça se discute. On peut être dans des conceptions complètement différentes qui peuvent mettre à moi étrangère, mais qui sont que je peux découvrir en étant des choses hyper intéressantes. Mais le mauvais goût, c'est le mauvais goût. On entend quand un musicien a un mauvais goût, ça s'entend. Quand c'est un bavardage inutile, quand c'est... Ça s'entend. Et donc ça, c'est quelque chose de très important pour moi, le concept.
On revient à Zouk Out. Un duo remarqué sur cet album.
Oui. Alors il y en a deux. D'ailleurs, il y en a deux.
Même deux fois.
Non. Il y a deux morceaux différents. Deux duos. Deux duos avec le même duo.
Ah bon,
voilà, c'est ça.
On est d'accord.
On est d'accord, c'est ça. Avec le même duo, avec Annick Tangoura au chant et Ralph Tamar. Et voilà, les deux morceaux sont magnifiques. Lequel on écoute?
On a parlé de Ralph tout à l'heure.
Oui.
Parle-nous de Annick Tangoura.
Annick Tangoura est une chanteuse qui est d'origine italienne, mais qui a grandi en fréquentant et en jouant toute sa vie des musiques africaine, brésilienne, jazz, un peu latine, antillaise. Et d'ailleurs, les morceaux qu'elle chante...
Il chante en créole.
Et pas ni pièce accent. De toute façon, si t'as un accent, bah, t'es qu'il est chanté. Il faut pas, parce que s'il y a un accent, ça peut pas marcher ici. Ça peut pas prendre. Il faut qu'on y croie. Et elle chante ça parfaitement bien, quoi. C'est voilà. Et elle a une sensibilité. Elle entend la musique. C'est pour ça que je me suis dit que voilà, la personne qui allait avec elle pour ça, c'était Ralph, parce que Ralph aussi, il entend la musique comme je disais comme tout à l'heure, comme un saxophoniste. Voilà.
On les écoute.